9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, ce matin, la République démocratique du Congo et l'arrivée annoncée de Joseph Kabila à Goma, annoncée par ses proches et par les dirigeants de l'AFC-M23, le groupe armé qui contrôle la grande ville de l'Est congolais. Encore beaucoup de questions ce matin autour de cette information et autour du programme de l'ancien chef de l'État à Goma. Dans ce journal, également le président de la BAD, la Banque africaine de développement, qui fait le bilan de ses deux mandats à la tête de l'institution. Le Niger, où des sources sécuritaires parlent désormais de près de 60 soldats tués avant-hier quand des djihadistes ont attaqué une base de l'armée. Et puis nous serons au Gabon. Reportage à Libreville hier. Beaucoup d'émotions pour le retour de la dépouille mortelle d'Aaron Boupenza, footballeur de l'équipe nationale, mort en Chine le mois dernier. Ce sont donc ses proches ainsi que les dirigeants de l'AFC-M23 qui l'affirment et qui annoncent que Joseph Kabila, l'ancien président congolais, est en ce moment à Goma. Le sujet est sensible puisque l'ex-chef de l'État est en rupture avec les autorités actuelles de Kinshasa qui souhaitent le traduire en justice et que Goma, la grande ville de l'Est congolais, est depuis la fin du mois de janvier contrôlée par l'AFC-M23. Ce matin, on ne dispose pas de photos ni de vidéos montrant Joseph Kabila dans la capitale du Nord Kivu. Mais on pourrait en savoir plus aujourd'hui sur ce qui attend l'ex-chef de l'État après une journée d'hier consacrée aux préparatifs, nous dit Patient Ligaudy.
La journée a été consacrée aux équipes techniques, ses proches collaborateurs venus avec lui. Au moins deux réunions ont eu lieu sans que le contenu ne soit révélé. Selon son entourage, il s'agissait surtout de préparer un programme qui tournera essentiellement autour de rencontres avec des personnalités politiques, sécuritaires, la société civile et même religieuse. Tout a été planifié, les audiences, le cadre, le programme qui devait être annoncé aujourd'hui mardi. Et une ébauche est déjà prête. Et pour la durée du séjour, aucune précision. Son équipe explique cependant qu'il est rentré chez lui dans un espace où il se sent en sécurité. Il est rentré chez lui, il a une résidence ici, même s'il quitte Goma, il sera de retour, a déclaré Patient Saïba, l'un de ses proches collaborateurs présents dans la capitale du Nord Kivu. Concernant sa posture, Joseph Kabila veut se positionner en pôle de stabilité et d'expertise face dit Kikaya Bintarubi, un autre proche collaborateur, au cas où. Cependant, ce n'est pas la même lecture qui est faite à Kinshasa. Un procès sera bel et bien lancé contre lui, disent des sources gouvernementales.
Oui, les autorités de Kinshasa qui soupçonnent Joseph Kabila d'être lié à la rébellion de l'AFC-M23. L'Est congolais ou par ailleurs Amnesty International alerte sur des cas de torture et de mort en détention dans les zones contrôlées par le M23, notamment à Goma et à Bukavu. L'ONG évoque de possibles crimes de guerre et demande que des équipes d'enquêteurs internationaux puissent avoir accès aux zones contrôlées par le groupe armé. Vous entendrez un représentant d'Amnesty International dans le prochain journal Afrique dans une heure sur RFI. Conflit dans l'Est congolais pour lequel le Parlement des pays francophones entend jouer sa partition pour une désescalade. L'Assemblée parlementaire de la francophonie tente sa chance. Première étape, Kinshasa, avant d'aller à Kigali. Pascal Moulégua.
Les parlementaires francophones viennent dans la région pour soutenir les processus des paix existants, à savoir Doha, Washington ou encore celui de l'Union africaine, qu'ils souhaitent d'ailleurs accompagner. À la tête de la délégation, le Camerounais Hilarion Etong, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
C'est une mission de haut niveau afin d'obtenir une lecture directe et nuancée des enjeux. Il s'agit pour nous de construire des ponts et non d'alimenter des factures, d'appuyer la médiation togolaise initiée à la demande de l'Union africaine en y intégrant une composante parlementaire, non pas résiduelle, mais additive et complémentaire.
La partie congolaise se montre très ouverte à toute initiative, mais pas à n'importe quel prix, prévient Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale.
Mais jamais à hypothéquer notre souveraineté, ni à céder un pouce de notre territoire. La République démocratique du Congo appelle aujourd'hui à une condamnation claire et audible de cette agression. L'heure est arrivée pour sortir des condamnations sans effet, afin de concrétiser les efforts réels de médiation.
La délégation a rencontré en fin de journée la MONUSCO, des organisations de la société civile, des représentants des confessions religieuses et l'opposition parlementaire. C'est mardi, la mission s'achève par des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement avant une audience dans l'après-midi avec le président Félix Tshisekedi. Le même exercice est prévu au Rwanda dès mercredi matin. Pascal Mulegwa, Kinshasa, RFI.
RFI 9h35 ici à Paris avec une nouvelle étape judiciaire dans une longue affaire. Hier, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir fait appel après la décision il y a 10 jours de ne pas mettre en examen Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana. Les juges d'instruction ont une nouvelle fois estimé qu'il n'existait pas à ce stade d'indices, disent-ils, qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide lors du génocide des Tutsis en 1994. Le parquet antiterroriste, lui donc, n'est pas de cet avis. Willy Diello.
17 ans après l'ouverture de l'enquête, Agathe Habyarimana est toujours placée sous le statut de témoin assisté. Selon les associations parties civiles, elle était l'une des dirigeantes de l'Akazu, le premier cercle du pouvoir Hutu, qui aurait orchestré le génocide. Maître Richard Gizagara est l'avocat des parties civiles.
Les victimes sont les premiers à regretter que cette procédure dure depuis autant de temps. Nous regrettons que ce soit long, mais nous avons toujours espoir que cette dame puisse répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés.
Face à la multiplication des étapes judiciaires, Philippe Ménac, avocat d'Agathe Habyarimana, dénonce un acharnement judiciaire.
On assiste à cette manœuvre un peu désespérée du parquet, cette stratégie dilatoire qui vise à précisément tenter d'empêcher le juge d'instruction de rendre cette ordonnance. Alors, je crois que les choses sont claires et aujourd'hui, la prochaine étape qui est attendue, c'est, encore une fois, que le juge d'instruction puisse rendre cette ordonnance qui rendra justice et quelque part aussi son honneur à ma cliente.
Pour la suite, la chambre de l'instruction va devoir de nouveau se prononcer sur la mise en examen. La prochaine décision est attendue dans les semaines à venir.
Walid Diallo au Niger, 2 jours après l'attaque très violente des djihadistes du groupe État islamique qui ont visé la base d'Eknewan près de la frontière avec le Mali. Des sources sécuritaires parlent désormais de 58 morts dans les rangs des soldats nigériens. Des opérations de ratissage ont été lancées pour tenter de retrouver des disparus ou des victimes supplémentaires. Pierre Firsion.
La zone de défense numéro 4 a enterré hier à Tawa ses soldats tombés dans la vallée d'Eknewan lors d'un violent accrochage avec des djihadistes venus à moto. Après le salut aux morts, le chef d'état-major des forces armées s'est rendu à Tidia, plus au nord, pour soutenir le moral des troupes. Les ratissages engagés depuis 48 heures ont permis de retrouver d'autres corps sans vie, ce qui porte, selon des sources sécuritaires, à 58 le nombre de soldats tués dimanche. En attendant le bilan officiel de ces combats, la mort avec ses hommes du commandant de la brigade spéciale dénote de la violence de l'accrochage. Ces éléments du BRS sont un corps d'élite de l'armée formé par des forces spéciales allemandes à Tilia. La vallée d'Eknewan est depuis 10 ans le fief des djihadistes de l'EIGS qui contrôlent cette zone de part et d'autre des frontières nigériennes et maliennes. Ce sont eux qui sont responsables des enlèvements récents à Agadez, dans le nord du pays, des 2 ressortissantes européennes, Eva Gretzmacher et Claudia Abt.
La BAD à l'heure du bilan à Abidjan, la Banque africaine de développement tient cette semaine son assemblée générale débutée hier et ce sera la dernière pour Akinwumi Adesina, le Nigérian. Il passe la main après 2 mandats à la tête de l'institution, 10 ans sur lesquels il est revenu hier.
Il y a 2 choses dont je suis fier. Tout d'abord, nous avons été capables de mobiliser des ressources financières. Le capital de la banque est passé de 93 milliards à 325 milliards de dollars. La seconde chose, c'est que la BAD a été capable de défendre les intérêts de l'Afrique partout dans le monde. Jusque-là, les données économiques étaient commandées de l'extérieur. J'ai mis fin à cela. Pour moi, il est important que la Banque africaine de développement produise ses propres ressources. Il s'agit de collecter les données, de les analyser et de fournir des recommandations de politique publique avec nos propres statistiques qui sont en phase avec les réalités de développement du continent.
Akinwumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, des propos recueillis par Binta Diagne. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Sénégal, un cinquième ancien ministre inculpé, Amadou Mansour Diaye, inculpé de faits de corruption et de détournement de fonds pour sa gestion de fonds destinés à la lutte anti-Covid quand il était ministre du développement communautaire lors de la présidence de Macky Sall, et des condamnations en Algérie, jusqu'à 10 ans de prison ferme pour plusieurs dizaines de personnes, trafic d'influence, abus de fonction ou encore escroquerie, tous reconnus coupables dans une affaire d'achat de parrainage en vue de la dernière élection présidentielle, et ceux qui écopent des peines les plus lourdes, ce sont 3 candidats écartés de l'élection. Enfin, beaucoup d'émotions hier à Libreville, la capitale gabonaise, où est arrivée la dépouille mortelle d'Aaron Boupenza, le footballeur attaquant des Panthères du Gabon, décédé le mois dernier en Chine, où il évoluait dans le club de Hangzhou, décédé à la suite d'une chute du 11e étage de son immeuble. Une enquête de la police chinoise a privilégié la thèse du suicide. Reportage à l'aéroport de Libreville, reportage d'Yves-Laurent Goma.
Le cercueil est porté par les membres de la famille d'Aaron Boupenza et l'émotion est vive parmi ceux venus assister au rapatriement de la dépouille mortelle. Parents, amis, connaissances et vedettes de l'équipe nationale, Stéphane Nguema, ancien capitaine des Panthères du Gabon, pleure la disparition d'une étoile.
Aaron, c'était vraiment un joueur exceptionnel qui avait énormément de talent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va vraiment énormément nous manquer à nous tous.
Audacieux et très rapide, Boupenza a fait rêver les Gabonais.
Aaron Boupenza m'a beaucoup fait rêver, surtout à la CAN au Cameroun. C'est là particulièrement que j'ai connu ce joueur et j'ai apprécié son talent.
Boupenza était un joueur très décisif, percutant.
L'émotion reste forte. Et les questions nombreuses après les événements du 16 avril dernier, quand Aaron Boupenza a chuté du 11e étage de son immeuble d'Hangzhou en Chine.
Je crois que c'était un poisson d'avril. Finalement, c'est vrai, parce que j'ai douté. Il faudrait qu'on soit vraiment bien informé.
Je ne comprends pas. Personne ne comprend ça. Non.
Les autorités gabonaises ont promis des funérailles nationales pour l'ancien attaquant de la sélection. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
À Libreville, où il est 8h42 et vous êtes avec André-Anne Mellard, c'est la suite des RFI Matin.